Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizard à la technique, Vinciane Colson au micro. La grève des agents pénitentiaires ces derniers jours a mis en lumière une nouvelle fois les conditions de vie déplorables dans les prisons. Des prisons surpeuplées. En 2014, il y avait près de 11 500 détenus en Belgique pour moins de 10 000 places disponibles. Pour sortir de ce désastre carcéral, le gouvernement mise notamment sur la construction de nouvelles prisons. Des méga-prisons telles qu'on pourrait en construire à Arun, en périphérie bruxelloise. Mais est-ce vraiment la solution? Y en a-t-il d'autres? Nous poserons ces questions à nos trois invités ce soir. Tout d'abord, Hervé Louveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juge au tribunal de première instance de Bruxelles et représentant de l'association syndicale des magistrats. Alors à vos côtés, Julie Papazoglou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et chargée de mission au Centre d'action laïque. Et enfin, Jean-Baptiste Godineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'ASBL Respire, une ASBL qui encourage le public à se réapproprier les problématiques sociétales. Et vous êtes tous les trois membres de la plateforme pour sortir du désastre carcéral. Alors justement, ce désastre carcéral, Hervé Louveau, il ressemble à quoi concrètement? Vous qui êtes membre de la commission de surveillance de la prison de Forêt, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y voyez régulièrement?
Oui, alors vous m'avez présenté comme magistrat et membre de l'association syndicale des magistrats et également comme membre de la commission de surveillance de la prison de Forêt. Ce sont deux titres différents, mais qui ouvrent peut-être des perspectives par lesquelles je peux commencer. Comme magistrat, je souhaite que le système carcéral soit efficace. Efficace dans la mesure où le public peut penser que l'action de la justice est souvent inefficace. Basons-nous par exemple sur le taux de récidive à la sortie de prison, il est très important dans notre pays. On pourrait penser que c'est la justice qui est responsable de cette situation. On voit aujourd'hui que la situation des détenus dans les prisons est indigne, c'est un mot qu'on utilise souvent. Est-ce la faute de la justice? Je voudrais montrer que la justice œuvre et que les magistrats œuvrent à un changement de la prison pour arriver à un meilleur système pénal et un meilleur système pénitentiaire qui respecte la dignité et qui permette de lutter effectivement contre la récidive, pour plus de sécurité des citoyens et aussi pour plus de dignité. On pense évidemment à la voie du reclassement des détenus. Donc les magistrats veulent œuvrer avec les autorités politiques à la construction de projets qui permettent d'arriver à ces objectifs. Ça, c'est un premier thème. Et puis, évidemment, l'autre côté des choses, c'est la réalité. Et la réalité, effectivement, je la vois avec mes collègues de la commission de surveillance de la prison de Forêt et de Berkendal. La prison de Forêt, on peut dire que c'est un peu une situation extrême de la situation des prisons en Belgique. Toutes les prisons en Belgique, heureusement, ne sont pas comme cela. Mais ici, on cumule les facteurs terribles qui conduisent à cette indignité dont je parlais, à savoir la surpopulation qui prend un visage aujourd'hui un petit peu différent parce qu'on a dû fermer une aile à Forêt tellement elle était délabrée. Et donc ça, c'est un second aspect des choses, c'est le délabrement physique, les bâtiments qui sont, il suffit de voir des boîtes de dérivation d'électricité qui sont ouvertes dans des salles de douche avec des détenus finalement qui sont en danger, les pompiers qui sont toujours à deux doigts de fermer la prison pour des raisons de sécurité, le bourgmestre de la prison de Forêt qui est aussi à deux doigts d'ordonner la fermeture de la prison parce qu'il ne tient pas à être responsable de décès qui pourraient survenir dans des conditions accidentelles, mais est-ce que ce sera encore accidentel si ça se produit? Le pire sans doute, c'est une certaine conception de la prison. Et cette conception-là, on la voit à Forêt, c'est une sorte de paroxysme, c'est-à-dire qu'on met un détenu dans une cellule au début de sa peine, au début de sa détention préventive, et on vient le rechercher à la fin du programme. Et entre les deux, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et souvent dans des conditions terribles, parce que, heureusement maintenant, c'est une des conséquences de la situation de crise qu'on a connue pendant ces 15 jours de grève, c'est que des juges ont pris leurs responsabilités et ont dit, dans ces conditions-là, nous ne jouons plus, et nous mettons fin à la détention dans des conditions aussi indignes dans le cas de Forêt, et aussi dans le cas d'autres prisons de Belgique. Mais ça a eu pour conséquence que le nombre de trios est revenu à 0 ou 1, je n'ai pas l'information pour aujourd'hui. Mais dans la situation ordinaire de Forêt, on trouve 3 détenus par cellule de 12 mètres carrés, des détenus qui doivent...
Des cellules qui en plus à la base sont prévues pour une personne.
Pour une personne, et dans des conditions de vétusté que je ne vous décris pas, c'est-à-dire avec un seau pour faire ses besoins, soyons extrêmement prosaïques et concrets, et j'en passe évidemment sous l'angle de l'équipement de ces cellules, et donc ici on a trois personnes qui passent 23 heures sur 24 dans une cellule de 12 mètres carrés, vétuste, et avec ce seau, enfin bon, le reste est à l'avenant, nous l'avons dénoncé à de multiples reprises, évidemment c'est notre rôle de commission de surveillance, et enfin cette situation de crise paroxystique que nous connaissons, que nous avons connue durant ces 15 jours de grève, a conduit à une conscientisation des magistrats, mais je pense aussi de l'opinion et des autorités politiques, où on dit non, maintenant, il faut que cela cesse. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas seulement dire il faut que ça cesse. Il faut prévoir autre chose. Il faut revoir les choses à la base. À quoi doit servir la détention ?
Et du coup, on va en parler justement de tout ça. Mais c'est vrai que pour revenir à cette grève, on sait que sans agents pénitentiaires, donc il n'y a pas de visite de famille, pas ou peu de préaux, des repas qui sont distribués de façon parfois hors repas par jour, parfois deux ou trois repas, mais vraiment de façon difficile, moins de douches. Donc tout ça, évidemment, les grèves des gardiens, donc des agents pénitentiaires, aggraver la situation des détenus. Est-ce qu'on peut pour autant, Julie Papazoglou, opposer le droit de grève à le droit à la dignité des détenus ?
Mais donc, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même juste dire un mot par rapport à ce que Hervé Louveau a dit et tous les constats qu'il fait. Donc nous, au niveau du mouvement laïque, on dénonce ces constats depuis très très longtemps, depuis de longues années. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi du personnel qui entre en prison tous les jours. Donc le mouvement laïque, par la Fondation pour l'assistance morale aux détenus, par des services laïques aux justiciables et aux détenus, par via les régionales aussi, entre en prison. On a des conseillers moraux qui assistent, qui accompagnent les détenus dans leur trajectoire pénitentiaire. Et donc il nous revient quotidiennement des témoignages de ce personnel en prison qui est vraiment difficile parce que il est parfois clairement difficile de faire un travail d'accompagnement et de soutien dans ces conditions que Hervé Louveau a tout à fait décrit. Et donc voilà, je voulais d'abord dire que vraiment le mouvement laïque dénonce cela depuis des années et malheureusement sans grand succès. Alors au niveau de cette opposition droit de grève versus droit à la dignité des détenus, je pense que ce sont deux droits fondamentaux et qu'il ne faut pas opposer. Ça serait faire une hiérarchisation dans les droits qui je pense ne fait pas avancer le problème. Je pense que le problème et le reflet que ça fait émerger, c'est une faille des gouvernements successifs dans la politique carcérale aujourd'hui. Ça démontre bien que la politique pénitentiaire, malgré certains efforts ça et là, est déficiente clairement, et qu'il faut donc, comme le disait Hervé, je pense aujourd'hui grâce ou à cause de cette grève, mettre le travail sur la table et se dire ben, revoyons tout cela, mettons tout sur la table, faisons un cadastre complet du parc carcéral belge actuel et
cadastre
qui n'existe pas, et mettons les choses clairement sur la table. Nous avons une quantité d'études criminologiques qui peuvent être tout à fait utiles en matière de réflexion sur la peine, de réflexion sur la privation de liberté, sur la réinsertion, sur les besoins de réinsertion, au niveau architectural. Il y a une thèse de doctorat qui vient d'être défendue à l'ULB justement sur l'architecture des prisons. Donc on a une série d'outils dont ils pourraient se servir pour enfin mettre à plat cette problématique et la prendre à bras le corps.
Et sans nécessairement se prononcer sur le service minimum, une question que j'avais à vous poser, c'est finalement, est-ce que ce service minimum en temps normal, est-ce qu'il est vraiment assuré ? Parce que certains agents pénitentiaires disent ok, un service minimum, mais en fait déjà en temps normal, on n'a pas ce service minimum parce qu'il y a toute une série de services qui ne sont pas assurés, parce que la CAAP, donc la Concertation des Associations Actives en Prison, a déjà dénoncé le fait qu'il y avait peu d'activités, voire pas du tout dans certaines prisons, et donc ce service minimum finalement, est-ce qu'il existe en temps normal ?
On doit dire que non, mais les choses sont variables. Il ne faut pas manquer de nuances. Je pense qu'il y a des prisons dans lesquelles les choses fonctionnent assez bien et de manière plus ou moins normale. Le manque de personnel pénitentiaire, je pense, est une constante. La manière de pouvoir se débrouiller malgré ce manque de personnel pénitentiaire est variable. À Forêt, c'est une grosse problématique, parce que je vous ai parlé de la condition des détenus, mais les conditions que vivent les détenus sont aussi les conditions que vit le personnel pénitentiaire. Quand vous vivez dans des murs délabrés où l'humidité suinte, où finalement on attrape des maladies, hein, parce que c'est, les conséquences sont aussi graves que cela, où finalement c'est assez déprimant à vivre, eh bien le personnel pénitentiaire connaît certaines maladies professionnelles et on arrive à un taux d'absentéisme, et ces poches d'absentéisme sont localisées, et Forêt souffre de cela aussi. Certainement, le service garanti, si vous voulez, n'est pas assuré en permanence dans le cas de Forêt. Les premiers à s'en plaindre sont certainement les membres du personnel pénitentiaire, et je crois qu'il faut les suivre quand ils disent que vouloir réduire le volume du personnel pénitentiaire actuellement, mais c'est sacrifier les prisons.
Alors, on va essayer d'aller un cran plus loin dans le débat, puisque bon, le désastre carcéral, je pense qu'il est là. On est vraiment dans une situation qu'on peut juger catastrophique aujourd'hui. Une des solutions pour en sortir, selon le gouvernement fédéral, ce serait de construire de nouvelles prisons, des prisons ultramodernes comme celle qui est en projet à Rennes. Donc à Rennes, on parle depuis plusieurs années de construire une méga prison pouvant accueillir près de 1200 détenus. Alors, une série d'associations se sont réunies au sein de la plateforme pour sortir du désastre carcéral, et donc ils s'opposent à ce projet. Jean-Baptiste Godineau, donc vous êtes membre de l'SBL Respire qui fait partie de cette plateforme. Alors pourquoi est-ce que vous vous opposez à ce projet de méga-prison à Rennes ?
Parce qu'il est mauvais. En fait, on a bien creusé le dossier avec de nombreuses associations. On a épluché autant qu'on pouvait le faire et on s'est rendu compte qu'effectivement, il ne présentait aucun avantage. Aucun avantage. Il est présenté, ce projet de méga-prison, comme un village pénitentiaire, une alternative moderne et novatrice à la politique actuelle qui serait une solution pour résoudre la surpopulation carcérale et proposer des conditions de travail décentes aux agents pénitentiaires et des conditions de détention meilleures aux détenus. En fait, quand on analyse donc le dossier un peu plus en précision, on se rend compte que c'est la même logique qui est actualisée, mais en pire, puisque ça serait la plus grosse prison du pays. Donc on est encore dans une logique d'enfermement de masse, dans une logique d'inflation pénitentiaire qui consiste à enfermer toujours plus de personnes pour un coût toujours plus important et dans des conditions qui ne s'améliorent pas vraiment, mais ça on va le voir un tout petit peu après. Par ailleurs, cette prison, elle va coûter une véritable fortune. On ne dispose pas des chiffres exacts, mais l'analyse qu'on peut en faire est que ça reviendrait à environ 3 milliards d'euros sur 25 ans. Donc une prison coûte de toute façon cher, mais là c'est une prison qui coûterait beaucoup plus cher, notamment parce qu'elle est réalisée via un partenariat public-privé. Donc c'est une technique de financement qui permet à l'État de dissimuler en quelque sorte ou d'escamoter un investissement en le coupant par tranches et en confiant le risque à une partie privée. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Et ce type de formule, partenariat public-privé, pour les prisons notamment, a été extrêmement décrié aux États-Unis et en France où il est pratiqué. L'Allemagne, qui avait construit des prisons en partenariat public-privé, vient d'en renationaliser deux, constatant que le service rendu était mauvais et que ça coûtait trop cher. Donc on est là dans une logique financière qui est hors de prix. Hors de prix pour la justice, parce que la justice est déjà exsangue, et financer une prison de cette taille, eh bien, ça risque tout simplement de couler le budget pour un quart de siècle. Et même après, puisqu'une fois qu'après le contrat de 25 ans, il faut encore continuer de financer la prison. Et tous ces moyens qui sont consacrés à la brique ne sont pas consacrés à l'humain. Donc cette prison est une continuation du même, mais en pire.
Oui, donc ça veut dire que cet argent, effectivement, vous prenez plutôt pour qu'il soit réinvesti dans d'autres types de services. Donc c'est vraiment de l'argent qui est un peu perdu et qui n'est pas utilisé à bon escient.
Nous le disons, mais nous ne sommes pas les seuls. La Cour des comptes en 2011, donc il y a 5 ans, a fait un rapport à la demande du Parlement. Et ce rapport est très riche dans la mesure où il indique bien que les choix qui avaient été faits quelques années plus tôt, en 2008, le fameux master plan, était un projet de politique qui était basé sur un besoin. Il s'agissait de lutter contre la surpopulation en construisant de nouvelles cellules. Et la Cour des comptes montrait de manière très judicieuse et fine qu'il fallait procéder à une étude avant de faire des plans pour répondre à ces besoins. Et que ces études passaient notamment par la définition d'objectifs, les objectifs dont on parlait tout à l'heure, assurer la lutte contre la récidive, assurer l'efficacité de la peine de prison, assurer la mise en œuvre de la loi adoptée en 2005 qui prévoit un plan de détention, c'est-à-dire que la prison ne soit pas une sorte de parking, c'est la situation qu'on connaît majoritairement aujourd'hui, où on dépose un détenu à la prison comme on déposait sa voiture au parking et on vient le rechercher non pas quelques heures plus tard mais des mois ou des années plus tard, évidemment l'individu à ce moment-là n'est pas prêt à sortir dans des conditions de reclassement et de sécurité finalement. En prison, il faut faire autre chose. Et la Cour des comptes soulignait, on n'a pas tenu compte de la loi de 2005 au moment de prévoir ce grand méga plan de méga prisons et d'autres prisons nouvelles, mais qui n'ont de nouvelles que le fait qu'on va les construire. Mais sur le plan de la conception, il faut revoir les choses à la base.
Alors on va revenir sur cette méga prison de Haren et sur tous les points qui, selon vous, ne correspondent pas à la situation actuelle. Et c'est en tout cas le fait que ce n'est pas une bonne solution pour vous. On va juste faire une pause musicale avec Johnny Cash et Folsom Prison Blues.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
C'était donc Johnny Cash avec Folsom Prison Blues, un blues qui illustre assez bien ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons. Alors on parlait juste avant la pause de la méga prison de Haren, de ce projet qui est sur les rails. Un des points que vous mettez aussi en avant, c'est le fait que cette prison est assez éloignée aussi du centre. Ce problème de distance, pourquoi est-ce que c'est un problème en fait? Pourquoi est-ce que le fait que ce soit éloigné dans le centre-ville pose problème?
En fait, c'est un problème majeur qui a sans doute été sous-estimé par l'autorité, puisque c'est notamment ce point qui a conduit le Collège de l'Environnement à casser le permis d'environnement qui avait été donné à la prison. Le projet de prison serait distant de 15 km du palais de justice, contre environ 2,5 actuellement pour les prisons de Forêt et Saint-Gilles. Donc ça correspond à une augmentation de la mobilité qui est tout à fait significative. Donc d'abord, ça représente des coûts supplémentaires, mais aussi du temps supplémentaire. Et la zone dans laquelle serait implantée cette prison, à Haren, au nord-est de Bruxelles, est totalement embouteillée, totalement saturée. Et les analyses de de mobilité de la région le prouve à suffisance, et c'est également inscrit dans l'étude d'incidence du projet de prison. Et donc rajouter une prison de 1200 places avec environ 800 travailleurs, plus les visites des détenus, plus tous les corps de la justice qui doivent travailler, plus les services de réinsertion, plus l'exploitation elle-même de la prison, ça correspond à un volume de mobilité tout à fait significatif qui ne pourra pas être absorbé sur place. Par ailleurs, pour les riverains, le choc en termes de bruit, de pollution et d'embouteillage va être démesuré, notamment parce qu'il y a des convois exceptionnels pour le transfèrement des détenus. Donc un convoi exceptionnel, c'est une sirène à 110 décibels et une ou deux voitures qui bloquent la circulation. Donc c'est un problème colossal qui va poser des problèmes d'urbanisme, d'environnement, de santé publique, mais également pour le fonctionnement de la justice, puisqu'on peut tout à fait douter que les avocats, par exemple, acceptent de se rendre, de faire des allers-retours entre le palais et la prison pour rencontrer notamment des détenus en préventive de manière tout à fait régulière. Donc ça va poser des problèmes extrêmement contraignants qui ont conduit notamment le président du tribunal de première instance à expliquer qu'il ne rendrait pas justice dans la prison, puisque c'est également l'un des,
oui, c'est des projets choses qui est prévu,
de cette prison. Voilà, c'est de pouvoir rendre justice à l'intérieur de la prison, ce qui est une aberration au niveau de la séparation des pouvoirs qui est totale. Mais cette localisation lointaine, enfin, est également problématique pour d'autres motifs, notamment celui du choix de la localisation. Il n'y a pas eu d'études et d'analyse de localisation alternative. Par exemple, et c'est ce que réclame la plateforme pour sortir du désastre carcéral, on n'a pas étudié la possibilité de rénover la prison de Saint-Gilles et de fermer la prison de Forêt et éventuellement de la reconstruire avec des matériaux corrects, pour faire une prison correcte. Cette possibilité-là, qui coule de source en quelque sorte, puisqu'on a déjà un emplacement situé à proximité du palais de justice fonctionnel, cette possibilité n'a pas été étudiée. L'ancien site de l'OTAN, qui est moins loin que Arun et qui est mieux desservi, a également été balayé d'un revers de main. Et là, on propose de construire la plus grosse prison du pays à un endroit qui est presque le plus mal desservi de Bruxelles, qui est totalement à distance maximale du palais de justice, et en plus sur un espace vert, et ça c'est un élément tout à fait important qu'on pourrait peut-être aborder plus tard.
Alors, donc on le disait, c'est éloigné du centre-ville, avec du coup plus de difficultés peut-être pour la famille aussi de venir rencontrer les détenus. Or, on sait que ce contact humain est très important, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on pointe aujourd'hui avec la grève qui a eu lieu dans les prisons, c'est ce manque de contact humain.
L'accès de la prison est quelque chose de fondamental, et je pense que si on veut anticiper sur des régimes de détention qui soient plus innovants que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ne sont pas non plus fantaisistes, hein, ce sont des expériences qu'on mène à l'étranger de manière efficace, la prison doit être quelque chose d'ouvert sur l'extérieur. Il faut quitter cette conception suivant laquelle tous les détenus doivent être enfermés dans une sorte de forteresse, pour éviter le risque d'évasion et les autres risques pour la sécurité. On peut parfaitement assurer la sécurité sans ces conditions-là et avec une certaine ouverture de la prison et des liens entre l'extérieur et l'intérieur. Ces liens sont indispensables pour leur classement, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer, et c'est prévu dans la loi, qu'un détenu puisse sortir de la prison de jour, revenir le soir, par exemple pour suivre une formation, pour même connaître des débuts d'expérience professionnelle ou ce genre de chose, quoi de mieux pour préparer la suite évidemment, et également il faut permettre les rapports dans l'autre sens, et actuellement on connaît de nouveau une situation paroxystique à certains moments, notamment en période de grève, mais pas seulement, où la prison est totalement inaccessible, notamment pour les services extérieurs qui sont des services indispensables. Beaucoup de détenus sont dans des situations de détresse et de vécu où ils ont un besoin d'assistance extérieure terrible, et ils en sont privés pendant des semaines, des mois parfois, parce que les services extérieurs n'accèdent pas à la prison. Donc évidemment, il faut que la prison de l'avenir soit bien plus ouverte, perméable. Ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas.
Oui, on sait qu'à Saint-Gilles, notamment, il y a plus de services, il y a toute une série de services qui ont été supprimés depuis près d'un an maintenant. Donc, ça existe depuis évidemment avant la grève, mais c'est renforcé encore.
Oui,
avec
les mémoires ne sont peut-être pas assez dures, mais c'est un scandale.
Alors, on parlait de solutions plutôt alternatives. Julie Papazoglou, quelles sont vraiment les alternatives? Du coup, on dit que les méga-prisons, les nouvelles prisons, ce n'est pas nécessairement une solution, parce que plus de prisons, c'est aussi plus de prisonniers. On voit que les statistiques l'ont montré ces dernières années. Plus on ouvre des places, finalement, plus on a de prisonniers, plus on a de détenus. Et c'est quoi les alternatives?
Avant de répondre à votre question, c'est vrai que quand on dit cela, quand on construit plus de prisons, il y a plus de détenus, toutes les nouvelles prisons seront remplies. C'est pas nous qui le disons, hein, seulement nous. C'est des rapports internationaux du comité anti-torture de l'ONU. C'est bien sûr, c'est les statistiques du SPF économie et du SPF justice qui, en les analysant, on voit très bien que dans les années 80, il y avait 5000 et quelques détenus, et puis aujourd'hui, on en a plus de 11 000, et on voit du coup que c'est clairement lié avec l'augmentation du parc pénitentiaire. Donc ce constat-là, il est fait, mais pas uniquement par des mouvements engagés, c'est aussi très clairement scientifique. Alors nous, ce qu'on propose, en tout cas au niveau du mouvement laïque, c'est clairement une politique réductionniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut diminuer le recours à la peine privative de liberté. On sait qu'elle n'aide pas à la réinsertion, au contraire, parfois elle fait pire, puisqu'il y a en moyenne 36% de récidive. Donc une politique réductionniste, ça veut dire donc diminuer le recours à la peine privative de liberté, diminuer donc l'entrée en prison d'une série de détenus qui n'y ont pas leur place. Je pense par exemple aux toxicomanes. La toxicomanie, effectivement, est une infraction, enfin le deal, etc. Mais est-ce que les personnes qui ont dealé ou qui consomment ont vraiment leur place en prison? Nous ne le pensons pas. Et donc il y a toute une série de personnes qui n'ont pas leur place en prison, et donc c'est moins d'entrée en prison, mais aussi faciliter la sortie. Et faciliter la sortie, c'est par exemple la libération conditionnelle qui devrait être repensée pour permettre une sortie plus fluide de toute une série de personnes avant terme. Alors au niveau des peines alternatives, elles existent en fait, hein. Elles existent dans les lois. Il y a la probation, il y a la peine de travail, il y a les travaux d'intérêt général, il y a la surveillance électronique. Il y a des alternatives qui existent. Simplement, il faut les mettre en œuvre. Il faut que le monde politique, le monde judiciaire s'en empare pour justement éviter l'enfermement.
Parce que aujourd'hui, ces peines, en fait, elles sont utilisées à la fin de peine, enfin plutôt qu'en remplacement de l'emprisonnement.
Donc on remarque une extension du filet pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de remplacer la peine privative de liberté par une peine alternative, on ajoute une peine alternative à la fin de la peine de privation de liberté ou juste avant la fin de la peine. Et donc, on se rend compte que ces mesures se surajoutent au lieu justement de remplacer la peine privative de liberté. Et c'est ça le problème. Il faut vraiment un changement de mentalité aujourd'hui. Et j'aimerais revenir sur les exemples à l'étranger. Donc, en Suède, les prisons se vident, aux Pays-Bas également. En Finlande, il y a des prisons, des modèles de prisons, des petites unités de 50 personnes dans des modèles tout à fait ouverts.
En Flandre, il y a des modèles d'ailleurs de Huizen qui sont des modèles un peu plus réduits, alors peut-être pas 50 personnes, mais en tout cas qui sont des projets de prisons plus petites qui sont en cours pour le moment.
Notre association de magistrats soutient ce projet de Huizen qui en français se traduit les maisons, donc ça n'existe pas qu'en Flandre, ça existe aussi en tout cas au stade du projet en Wallonie et à Bruxelles, et nous espérons très vivement que ces projets vont se mettre en place rapidement et que le SPF Justice va suivre le mouvement, c'est-à-dire le soutenir, pour que des petites unités de détention puissent voir le jour, unités de détention qui seront radicalement différentes des prisons actuelles sous l'angle des possibilités de mettre en œuvre le plan de détention.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, mais j'avais quand même encore une dernière question pour vous, Jean-Baptiste Godineau, c'est que aujourd'hui, donc pour la prison de Haren, il y a une nouvelle enquête publique qui est en cours. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, voilà, où ça en est, que peuvent faire les gens qui éventuellement voudraient s'opposer à cette prison ou en tout cas prendre connaissance du dossier, avoir quelques dates et quelques échéances pour la suite?
Donc effectivement, toute la procédure a été ralentie par les recours qui ont été introduits et la mobilisation associative. Donc une deuxième demande de permis d'urbanisme a été introduite ainsi qu'un deuxième plan de réalignement des sentiers, puisqu'il y a des sentiers qui traversent le site de la prison et la ville jusque-là a refusé de les déplacer. Donc la prison ne peut pas avoir lieu pour l'instant. Donc deux nouvelles demandes d'autorisation sont soumises à enquête publique jusqu'au 20 mai. Et pendant ce temps-là, tous les citoyens, absolument tous, peuvent écrire une réclamation à la commission de concertation de la ville de Bruxelles pour faire entendre leur point de vue et ils devraient être, à notre avis, très critiques. Nous avons fourni une proposition de courrier type que l'on peut retrouver sur différents sites internet. Il suffit de chercher dans un moteur de recherche, prison de Haren, enquête publique. Et il faut les renvoyer à la commission de concertation pour le 20 mai à minuit. Et ensuite, il y aura une réunion publique le 1er juin à laquelle tout le monde est convié pour animer cette réunion qui doit être hautement démocratique. Et à partir de là, un avis sera remis et la suite de la procédure continuera et nous introduirons des recours en justice certainement.
Voilà, mais on reviendra dans tous les cas de toute façon sur ce dossier. Merci en tout cas à tous les trois, donc Hervé Louveau, Jean-Baptiste Godinot et Julie Papazoglou pour d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Bonne soirée à tous. United Nations.